Jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Vous recevez aujourd'hui dans nos studios un auteur, Romain Plancher.
Oui, aujourd'hui dans l'émission, on va plonger dans l'univers fantastique de Vestiges. Le livre Inconspiration est sorti en mars dernier. C'est le premier tome d'une trilogie que vous avez écrite. Romain Plancher, bonjour.
Bonjour Victorien.
Vous habitez à Saint-Gervais depuis quelques années et c'est votre premier roman. Je l'ai lu et je peux déjà vous dire que j'ai vraiment adoré. Alors avant de rentrer dans le monde de Vestiges, votre parcours littéraire, il débute à l'adolescence où vous commencez à imaginer des mondes fantastiques. Comment ça vous est venu cette idée de créer des univers comme ça ?
C'était plus un besoin en fait.
Ouais.
Un besoin de m'évader, de rêver. J'ai toujours vécu un peu dans ma tête et j'avais besoin d'imaginer des histoires, des mondes, des personnages.
Et vous aviez déjà posé les fondations de ce qu'allait devenir Vestiges à l'époque ?
Ouais, vers la fin de l'adolescence, j'avais commencé à imaginer une histoire que j'ai voulu raconter d'abord en BD et un peu plus tard en roman. Et ça a beaucoup évolué depuis pour devenir Vestiges, mais les bases étaient là.
Oui, parce que vous avez ensuite abandonné l'écriture au profit de différents jobs alimentaires. Mais le feu sacré de la littérature s'est rallumé en vous lors de la période Covid, c'est bien ça ?
Rien à voir avec le Covid, mais c'était plutôt la période de la quarantaine en fait.
Ouais.
Besoin d'accomplir quelque chose et de retrouver cette vocation ignorée depuis longtemps.
Et votre trilogie, vous l'avez écrite en 2022-2023, 3 mois par livre. Mm-hmm. C'est un rythme que vous étiez imposé ou qui est venu naturellement ?
Non, ça s'est posé tout seul en fait.
D'accord. Et parce que c'est quand même un rythme assez soutenu, hein, faut le dire. Hein, là, le livre 1, Conspiration de Vestiges, il fait plus de 575 pages, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et depuis, vous continuez à écrire tout en travaillant pour avoir un salaire. Vous arrivez à garder le rythme quand même ?
Difficile, là, j'avais écrit les 3 livres pendant une année sabbatique, donc c'était plus facile de me concentrer. Mais là, j'ai repris mon travail et ça demande beaucoup plus d'efforts. Je suis en train d'essayer de poser un rythme et c'est pas facile.
Et comment ça se passe dans votre tête quand c'est comme ça ? Vous écrivez un peu naturellement comme ça vous vient ? Vous essayez de structurer vos idées ?
Non, je fais beaucoup de travail préparatoire. Toute l'histoire, la structure, l'univers, les personnages. J'ai des tableaux blancs, des post-it de partout.
On peut imaginer votre bureau.
C'est un peu ça, oui.
Alors, rentrons maintenant dans l'univers de Vestiges. Si vous pouviez résumer ce monde où se mêlent donc époque industrielle et créatures tirées de la mythologie.
Alors, il faut imaginer que ça se passe dans un Londres victorien du 19e siècle où toute l'histoire qu'on connaît existait déjà, mais il y a eu un cataclysme qui s'appelle la conjonction qui a mélangé tout un tas de mythologies de nos cultures avec l'humanité et la Terre. Et pendant quelques décennies, l'humanité a cohabité avec tout un tas de créatures de façon plus ou moins heureuse dans une période qui est très très mouvementée dans notre histoire et qui a abouti vers la fin du 19e à une espèce d'apocalypse biblique avec les 4 cavaliers, tout le tintouin, les trompettes et tout. Ouais. Et la quasi-destruction quasi totale du monde avec une brume qui recouvre quasiment tout sauf une poignée de cités bastions qui deviennent des enclaves où s'entassent tous les survivants depuis un siècle.
Oui, c'est ça, et du coup vous avez choisi comme cadre pour votre histoire la ville de Londres après l'époque victorienne. Pourquoi ce choix justement et pourquoi pas Paris ou d'autres villes à cette époque ?
Parce que le Paris de l'époque c'était Londres, c'était un phare culturel qui a illuminé un peu tout le reste du monde, qui a été un exemple en fait culturel. Pourquoi cette époque ? Parce que c'est juste assez moderne pour permettre pas mal de liberté au niveau de l'histoire et au niveau de rebondissement, au niveau des enquêtes. Et sans en mettre trop de techniques, comme aujourd'hui avec toutes les experts scientifiques par exemple, je voulais que les méchants aient une plus grande liberté d'action, mais qu'on soit pas dans un environnement complètement médiéval, arriéré, avec très très peu de techniques derrière. Et c'est aussi un environnement qui est très très riche à décrire et à exploiter. Donc,
Oui, vous faites en fait de l'urban fantasy. Ouais. C'est donc un mélange d'industrie, de magie, un peu un côté steampunk où les épées chevaleresques se mélangent aux armes à feu et autres technologies. Quelles ont été vos inspirations pour vous approprier ce genre très spécifique ?
Alors, j'ai eu des inspirations, le besoin de mélanger des genres déjà. Mais dans mes inspirations, il y en a quelques-unes que je pourrais citer. Par exemple, Carnival Row, une série Netflix, qui est un bon exemple. On a aussi la saga Grisha qui a été adaptée dans Shadow and Bones, pareil sur Netflix. On a aussi un roman qui est très sympathique qui s'appelle Les Extraordinaires Aventures de Silvo Sylvain, qui est un détective dans un environnement pareil, urban fantasy, avec des elfes, des nains, mais dans un paname post-victorien un peu pareil. Il y a beaucoup de similitudes dans l'ambiance. Ce genre de choses.
Et pour raconter un petit peu l'histoire, sans trop en dire, hein, bien sûr, votre héroïne, Sybille Crawley, est une riche héritière industrielle qui a sur ses épaules la pression de perpétuer le combat social de feu sa grand-mère Adèle, qui s'est battue pour les droits des Oniriens. Alors les Oniriens, c'est les créatures fantastiques. Donc on a des elfes, des nains, des fées, des cyclopes, des minotaures. Cette notion d'héritage, elle est centrale dans votre œuvre aussi. Du coup, le fait que Sybille ait toute cette pression sur ses épaules, ce fait de devoir perpétuer quelque chose.
Ouais, c'est un peu un poids qu'elle a au début et dont elle essaie de se détacher pour devenir elle-même et en fait être connue pour ce qu'elle est, pour ses propres réalisations et pas pour celles de ses aïeux. Mmh. Et elle va se battre tout au début de l'histoire et une partie de la suivante pour s'imposer.
Et justement, Sybille, elle va faire face à de nombreux dangers, mais elle démontre toujours une grande détermination dans ses quêtes, un peu comme votre envie de ne jamais abandonner l'écriture. Est-ce qu'on retrouve autre chose de vous dans votre personnage principal ou dans d'autres personnages ?
Un peu dans tous, j'ai l'impression. Dans Sybille, on va retrouver ma résilience et mon envie de continuer à avancer malgré tout. Dans Chamille, on va retrouver mon côté complètement introverti, même si je me soigne. Dans Ethan, pareil, le côté un peu en retrait, mais curieux, qui s'intéresse un peu à tout.
Ethan, c'est un peu un étudiant timide qui vient du King's College, qui a énormément de connaissances et qui du coup se retrouve embarqué dans les enquêtes.
Et qui est surprotégé par son père, qui n'a pas fait l'expérience de la vie, mais qui veut absolument entraîner à côté des deux héroïnes.
Oui, vous avez évoqué Chamille notamment. Oui. On dit Chamille, c'est ça ?
Oui, c'est Chamille.
Chamille, ok. Et donc Chamille qui, elle, est une gosse des rues, un peu rebelle, voilà. C'est un petit peu ça l'idée ?
Oui.
Oui, c'est ça.
C'est surtout quelqu'un qui a tout perdu.
Ouais. Elle passe très trouble.
Qui a tout perdu pour ce qu'elle est. Et ça, je pense que j'anticipe une autre question.
On va continuer, en tout cas, de parler de Vestiges avec vous, hein, Romain Planchet. Le livre Inconspiration est sorti il y a quelques semaines, disponible notamment sur Amazon ou en commande dans la plupart des librairies. Mais avant ça, une pause musicale proposée par notre animateur Thierry David.
Oui, alors quand vous dites proposer, c'est pas moi qui chante. Hein.
Ah oui, bah heureusement.
Olivier Ruiz, à suivre les rendez-vous de midi juste après le sel, 12h44.
Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Sorry.
extrait de son nouvel album, c'était Le Sel sur Neuve. Jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, vous recevez Romain Plancher. C'est un auteur gervinois, victorien.
Exactement, on avait commencé à évoquer avant la pause l'univers de Vestiges, votre série de romans que vous publiez cette année, Romain Plancher. Le premier tome, Conspiration, est déjà disponible. Alors, je le rappelle, on est dans un monde où, suite à une étrange apocalypse, les humains côtoient les Oniriens, des créatures fantastiques tirées tout droit des différentes mythologies. On a la mythologie grecque, bien sûr, mais aussi nordique, asiatique. Les mythes, c'est quelque chose qui vous passionne ?
L'imaginaire me passionne. Et je trouvais intéressant de réutiliser tous les mythes connus un peu par tout le monde, c'est la culture populaire quasiment maintenant, dans un environnement complètement différent et de les réinventer en fait.
Oui, c'est ça, on va avoir des dieux grecs, des dieux nordiques, toutes ces choses-là qui vont apparaître. Vous attachez d'ailleurs beaucoup d'importance aux descriptions de vos personnages, ils ont tous des caractéristiques qui leur sont propres, c'est ce qui rend votre univers encore plus vivant du coup ? C'était ça l'idée ?
C'est une question, je crois que c'était un compliment.
Ah ben, c'est un compliment aussi, hein. Moi je vous l'ai dit, de toute façon j'ai dévoré le bouquin, mais...
Un bon personnage doit être pas caricatural, mais on doit pouvoir le définir en quelques mots. Et je crois que c'est quelque chose, ce goût du portrait, c'est quelque chose qui me vient d'une vieille rédaction que j'avais faite en cours de troisième en français.
Et on découvre assez rapidement dans votre histoire du sabotage, des complots, d'où le titre, hein, Conspiration, de ce premier tome. On n'en dévoile pas trop, hein, pour ne pas spoiler, mais finalement on rentre presque dans le genre du polar dans votre livre.
Ouais, il y a des éléments, surtout dans le tome 1, parce qu'on est dans de l'intrigue avec des méchants qui sont pas là, sur lesquels on peut mettre ni visage ni nom, mais avec toute une espèce de conspiration et une enquête des héros qui essayent de lever le voile sur tout ça.
Vous avez évoqué les méchants, hein. La grande menace dans votre récit, c'est celle du chevalier noir, très mystérieux, à l'armure encroûtée de sang séché. Il hante mystérieusement les cauchemars de Sibyl. Est-ce qu'il faut un bon méchant pour faire une bonne histoire ?
Ah oui, celui de la palissade. Oui, il faut un bon méchant. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bon méchant ? C'est une question intéressante aussi. Il faut un méchant qui soit en nuance de gris.
Oui, c'est ça.
Ni mauvais. Le plus intéressant, c'est les méchants qui font de mauvaises choses pour de bonnes raisons, je trouve.
Oui, parce que justement, dans votre livre, la frontière entre le bien et le mal, elle est souvent brouillée. Il y a des trahisons, des dilemmes moraux. C'est important de créer ce genre de rebondissement pour le lecteur ?
Oui, et puis quelque part, c'est une façon de retranscrire un peu ce qui est l'humanité, quoi. On est en nuance de gris, quoi, comme je disais tout à l'heure. Et c'est autant de ressorts qu'on peut utiliser narrativement pour faire d'un héros, finalement, une pourriture infâme ou simplement quelqu'un qui a des faiblesses.
Est-ce qu'au final, ce chevalier noir devient pas un petit peu l'élément central de ce récit, le personnage principal, même s'il est beaucoup moins présent dans les chapitres que Sibyl ou Ethan ou Chemi
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Mais sans vouloir spoiler, effectivement, il est très important à l'histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on va le retrouver sur les trois couvertures des livres. Mais il est beaucoup plus compliqué qu'un simple méchant, dont d'ailleurs on ne connaît pas l'objectif.
Non, en tout cas...
Mais les moyens qui sont assez...
C'est à découvrir. Oui. D'ailleurs, Sibyl, elle est rapidement accompagnée dans sa quête de vérité par Chami, hein, on l'a évoqué, une gosse des rues rebelle au passé trouble, et elle peut se rendre invisible. En fait, dans l'univers de Vestiges, il y a des humains qui héritent de pouvoirs spéciaux, on les appelle les souillés, ils sont carrément traqués pour leurs différences. Est-ce qu'on peut y voir une certaine critique, je sais pas, du conformisme ?
C'est pas, peut-être pas le conformisme qui me déplaît le plus dans ça, c'est plutôt le fanatisme en fait. Parce qu'ils sont pourchassés par une espèce de secte religieuse apostate de la grande religion du coin et qui leur attribue en fait l'apocalypse et qui pense que la résurgence de nouveaux souillés, donc ces humains avec des pouvoirs, pourrait provoquer une nouvelle fin du monde, enfin ce qu'il en reste.
Vous avez évoqué des scènes assez sanguinolentes, hein. Parfois vous adressez quand même à des lecteurs avertis.
J'ai pas volontairement accéléré ici sur du young adult par exemple ou vraiment sur des adultes ou du 18 plus on va dire. J'ai voulu j'écris les choses telles qu'elles sont en fait, réalistes.
Oui, parce qu'au final, il y a du sang, mais c'est pas pour rien. S'il y a du sang, c'est qu'il y a eu bagarre, il y a eu un coup d'épée.
Fort, ouais. S'il y a un moment fort qui provoque, par exemple, une mutilation sanguinolente, impressionnante, elle va avoir un intérêt, ça ne va pas être gratuit.
Et j'imagine que vous avez effectué un travail de documentation important pour poser les jalons de votre univers. Il y a quand même des références très précises au mythe, on l'a dit, mais aussi à l'urbanisme de Londres, fin 19e, début 20e, aux technologies de l'époque.
Effectivement, et comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de travail préparatoire sur cette histoire. Toute la construction de Londres, le world building, comme on dit. J'ai compilé beaucoup d'éléments historiques pour me refaire une timeline générale de ce qui s'est passé au 19e, qui servait de base à l'histoire. Et en y greffant, moi, des éléments d'Uchronie, hein, pour faire évoluer l'histoire autrement, en fait, à partir d'une certaine date. Toute la technologie d'époque, j'ai dû m'y mettre. Pareil, j'ai fait pas mal de recherches. Je me suis servi beaucoup d'Internet et aussi partiellement de certains livres en papier, en anglais d'ailleurs. Sur la vie dans, à l'époque de la Régence, l'époque victorienne. C'est passionnant.
Oui, du coup, vous gardez vraiment cet esprit historique tout en amenant ces petits éléments qui vont faire que c'est un univers unique, quand même.
Oui, puis comme c'est une histoire qui se passe un siècle après l'époque victorienne, mais où rien n'a vraiment beaucoup évolué au niveau culturel ou technologique, on a tout un tas de petits éléments victoriens qui restent de l'époque, et j'ai voulu un peu en disséminer un petit peu partout.
Et c'est notamment le cas dans les premières pages du livre, vous avez carrément créé une carte du Londres de votre univers. Alors on retrouve certains quartiers, la Tour de Londres, etc., qui là est renommée la Tour Victoria, mais le tout avec ces éléments nouveaux que vous apportez.
Ah, j'ai repris un peu les divisions administratives de l'époque, certaines. J'ai redécoupé autrement parce que Londres a été fortement malmené par le phénomène de la conjonction. Ou même au niveau de topologique, en fait, il y a eu des choses. Le nord de Londres est une espèce de montagne volcanique, en fait.
Oui, c'est ça, une montagne volcanique où d'ailleurs vivent la plupart des créatures fantastiques, les oniriens, c'est ça.
Il y a une espèce de vieille réserve là-bas qui reste un centre communautaire fort de ces créatures magiques.
Oui, il y a des histoires de ghettoisation parce que ces oniriens, on m'apprend qu'en fait ils sont des citoyens de Londres à part entière, mais c'était pas le cas pendant un très long moment, et du coup c'est un peu une population persécutée, en fait.
C'est un peu la ségrégation raciale qu'on a eu à une certaine époque avec les populations noires. Là c'est sur des créatures magiques, et dans l'histoire ça fait une vingtaine d'années à peu près que il y a une progression sociale et qu'ils sont intégrés à la société, qu'ils ont des droits déjà, et qu'ils peuvent avoir des entreprises, signer des contrats.
Voilà, il y a plus qu'à découvrir ça. Oui, travailler dans des usines notamment, puisqu'il y a le côté industriel est très important, hein, notamment autour d'un matériau qui s'appelle l'onirite, c'est bien ça. Donc c'est un matériau qu'ils ont découvert qui pouvait résister à cette fameuse brume qui entoure les cités bastions, cette brume qui est corrosive, quelque chose comme ça, qui détruit tout, sauf ce matériau-là qui du coup est exploité par les usines de Sibyl, la personnage principal. Donc c'est aussi central, l'industrie dans votre récit.
Oui.
Et notamment, cette histoire de sabotage, ça se fait au niveau des usines.
Oui, tout à fait. Et c'est central dans l'histoire, c'est central au niveau de la ville, au niveau de la société. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de désastres autour du monde industriel. Ça a des conséquences derrière qui sont sociales et que les héros essayent de démêler.
On l'a dit, hein, c'est votre toute première série de romans, vous êtes auto-édité.
Oui.
Comment ça a marché pour vous, ce processus? Ça peut intéresser les écrivains en herbe qui nous écoutent.
J'ai d'abord essayé de contacter des maisons d'édition classiques, bien entendu. Et comme ça n'a pas bien marché, je me suis orienté vers une plateforme qui sert de tremplin vers l'édition classique, qui s'appelle LibriNova. On va leur faire un peu de pub. Ils sont sympas, on bosse bien ensemble. Qui proposent tout un tas de services, hein. C'est des prestataires de services qui m'épaulent, moi, sur le côté promotionnel auprès de différents blogueurs, chroniqueurs et des éditeurs aussi. Et qui s'occupent de la diffusion auprès de toutes les librairies françaises et des plateformes en ligne comme Amazon, Kobo, Cultura, etc.
Et les deux prochains tomes de Vestige, ils sortiront courant de l'été, puis en fin d'année. Vous avez déjà les titres, si vous pouvez un petit peu nous teaser tout ça.
Absolument. Le premier, donc, ça s'appelle Conspiration. Le second, Le Collectionneur, qui va donc se concentrer sur un personnage que vous découvrirez dans le tome 1. Et le troisième s'appellera Apocalypse, au pluriel, parce qu'une c'est pas assez.
Bah non, il en faut plusieurs, ouais. C'est sûr. Et vous travaillez en ce moment sur un nouvel ouvrage qui reprend l'univers de Vestige, mais vous pouvez nous en dire quelques mots en avant-première ?
Ouais, lui il a pas de titre encore, parce que le titre je le mets toujours à la fin. C'est comme une espèce de condensé de l'histoire, quoi. Ça sera un polar qui va prendre comme personnage principal l'un des personnages secondaires de Vestige, justement, qui est un enquêteur, et qu'on suivra dans ses premières années en tant que privé, justement. On va reprendre un peu les codes du polar, mais en mixant tout ça avec mes éléments d'urban fantasy, d'occultisme, de créatures magiques.
Voilà. Et là, ce sera un préquel, du coup, ça se passera avant les événements de Vestige.
Ça va se passer 20 ans avant, donc on va être en plein dans la mutation sociale dont on parlait tout à l'heure, où les Oniriens commencent un peu à s'installer en tant que citoyens. Ce sera pas central, mais ce sera le contexte général. Et voilà, ça se passe dans le passé.
Bon, en tout cas, merci hein, Romain Planchet d'être venu dans ces rendez-vous de midi nous présenter le tome 1, Conspiration, de votre trilogie Vestige, que je recommande grandement à tous les amateurs d'univers fantastique. On espère vous retrouver très vite pour de prochaines œuvres. À très bientôt.
À très bientôt, Victorien.